Au Café Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
Merci de nous écouter à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Eh bien, on apprend que les albinos à Mbujimaï, il y a une nouvelle qui nous vient de là. Eh bien, les albinos du Kasaï oriental sont décidés à conjuguer leurs efforts pour mieux défendre leurs droits. Ils se sont réunis au sein d'une association dénommée Solidarité des albinos du Kasaï oriental, un cadre de réflexion sur la situation de la personne albinos dans la société kasaïenne. Les détails, c'est tout à l'heure avec Chris Moukand depuis Mbujimaï. Chris, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors Chris, on vous écoute. Parlez-nous de ces regroupements des albinos du Kasaï oriental.
En fait, il existe effectivement cette solidarité pour marquer d'un cachet spécial la création de cette association. Une cérémonie grandiose a été organisée dans la salle polyvalente du centre Mpokolo-Amoï et présidée par l'évêque du diocèse de Mbujimaï, Mgr Bernard Emmanuel Kassanda. Selon les initiateurs, l'ASACOR, c'est donc la solidarité des albinos du Kasaï, est un cadre de réflexion sur la situation de la personne albinos dans la société kasaïenne. Une structure née de la prise de conscience du droit à la vie et à l'épanouissement de la personne albinos qui s'estime détestée, marginalisée et deux fois supprimée physiquement.
Et comment ces personnes albinos de Mbujimaï apprécient cette initiative, la mise au pied d'une association pour eux?
L'idée est très bien accueillie. Je suggère qu'on suive à ce sujet les impressions d'Isabelle Kaïba Mwamboui. Elle est enseignante à l'Institut Loucé.
J'ai apprécié vraiment cette situation parce qu'auparavant, commencez par moi qui vous parle, quand j'ai rencontré une personne albinos en route, je me sentais un peu mal à l'aise. Donc c'est comme si je voulais même me cacher. Mais avec la SACOR, nous nous réunissons chaque dimanche. Je n'ai plus cette peur-là, je suis très à l'aise. Je cherche à ce que l'association puisse nous amener toute personne albinos à se prendre en charge et à mettre en pratique ce que l'évêque du diocèse a dit, l'estime de soi. Que la personne albinos se donne d'abord de la valeur, qu'elle se voit qu'elle est une personne comme toute autre personne à part la peau. Puisque c'est Dieu qui a créé la diversité des peaux, il n'y a pas de problème pour que la personne albinos puisse se gêner, qu'elle se prenne en charge, qu'elle soit courageuse de faire tout ce qu'elle peut, parce qu'elle est une personne humaine créée à l'image de Dieu.
Voilà. Il y a eu un repas qui a été partagé. Qu'est-ce que vous avez pris personnellement?
Oui, moi j'ai pris la viande et un peu de riz, comme je suis Mwamboui, j'aime bien consommer. J'ai pris une grande quantité de foufou.
Mais à boire?
À boire, j'ai pris la scol comme toute personne qui se respecte, c'est scolarisé.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors, Chris, il y a eu beaucoup d'ambiance. Hein, vous me donnez envie de manger aussi. Alors, dites-nous, Chris, y a-t-il eu d'autres réactions par rapport à cela?
Cette fois-ci, je voudrais que l'on prenne un homme. La valorisation de la personne albinos au Kasaï oriental est une idée soutenue par l'évêque du diocèse de Mbujimaï. Ainsi, Cléophas Nyembo Nyerere s'en félicite. On le suit.
L'initiative de Monseigneur évêque, c'est une initiative jamais vue. Vous savez, il y a ce que moi j'appelle manque de considération à toute personne n'ayant pas la peau noire comme vous. Et qu'aujourd'hui, que l'évêque puisse penser à donner de la valeur à cette personne ayant la peau blanche, moi je crois que c'est une initiative que nous devons encourager. Je voudrais en profiter pour dire que tous ceux qui ont la peau blanche, ils sont hommes, personnes, avec toutes les mentalités, raisonnements, comme toute personne ayant la peau noire. Eh bien, plus grave, ce sont les peaux noires qui cherchent à devenir des peaux blanches, mais et non l'inverse. Moi, je pense que c'est une initiative qu'il faudra encourager et enlever dans les têtes de ceux qui ont la peau blanche qu'ils sont sous-hommes. Donc, ils sont hommes comme tout autre homme et ils sont en mesure d'agir et de se comporter comme responsables. Je connais à Kinshasa, sur l'Umété 1ère rue, il y a un pasteur ayant la peau blanche, mais qui a une très grande église. Donc c'est un exemple à suivre. Je crois que moi-même vous me comptez et je tiens. Vous n'allez pas me dire que ceux qui ont la peau noire vaut plus que moi. Donc je crois que c'était un problème de complexe qui était dans les têtes des gens ayant la peau blanche, vu la culture surtout de chez nous. Eh bien, à l'évêque, j'ai dit bravo, je crois qu'il peut continuer. Je crois avec les débuts étaient toujours difficiles, mais avec le temps, les gens comprendront que nous sommes tous des humains et que nous avons tous droit à la vie.
Alors, Chris, quel a été le rôle de l'évêque du diocèse de Mbujimayi dans la mise sur pied de cette association?
En fait, c'est lui qui a eu l'idée et qui s'engage vraiment dans cette lutte contre la stigmatisation de la personne albinos dans la société kassaïenne. Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda parle de ce qui a été le déclic pour lui à cette entreprise.
Un jour, un jeune homme du nom de Kalonji a été tué parce qu'il était tout simplement albinos et parce qu'on cherchait à obtenir des organes de son corps afin d'aller faire le commerce avec ça en dehors du pays. C'est un événement déclencheur qui m'a fait prendre conscience que nous devons changer l'approche de ceux qui habitent avec nous, mais marginalisés de façon assez compromettante, parce qu'on le fait en douce, mais l'albinos n'a pas de place dans notre société.
Voilà, merci beaucoup Chris Mokanda pour toutes ces informations. On va donner la parole dans quelques instants à Isidore Bamanaï. Il est avec vous au studio de Radio Kapi à Mbujimayi. Chris, merci et bonne journée.
Merci Jody.
Radio Okapi.
À Mbujimayi.
Okapi.
Sur 93.8 FM.
Okapi.
Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Jody.
Voilà, nos meilleurs voeux et heureux de vous retrouver encore une fois sur les antennes des radios Capi. Vous avez pris l'initiative, dans le cadre de votre organisation Éducation à la vie, vous avez pris l'initiative de sensibiliser les personnes albinos du Kassaï oriental par rapport à l'estime de soi. D'où est venue cette idée de les sensibiliser et d'aboutir, la sensibilisation qui a abouti aujourd'hui à la mise en place d'une association?
Oui, merci beaucoup Jody. Meilleurs vœux à vous aussi et à tous vos siens. L'idée n'est pas venue du centre d'éducation à la vie, comme l'évêque l'a dit lui-même. Il avait été interpellé dans sa conscience et il s'est rendu compte que nous vivons dans une société où on évangélise, on apporte la bonne nouvelle dans une communauté où il y a une minorité qui souffre en silence, c'est par exemple les albinos. C'est alors qu'il a eu l'idée de monter un projet avec toute une série d'activités en faveur des albinos. Et parmi les structures diocésaines, il a opté pour nous confier l'exécution de ce projet-là. Et nous avons commencé à l'étudier avec lui et en fin de compte, le projet a été accepté quelque part. Quand le financement est arrivé, nous avons commencé les activités. Donc l'idée est venue de l'évêque. L'idée n'était pas venue de nous, centre d'éducation à la vie.
D'accord. Et quels sont les problèmes auxquels les personnes albinos sont confrontées au Kassaï oriental?
Il y a beaucoup de problèmes. Les albinos vivent dans un environnement hostile à leur propre vie. Depuis la naissance, les parents sont désagréablement surpris de se rendre compte que l'enfant qui est venu au monde est un albinos. Il faut attendre longtemps pour qu'on lui donne le nom. Et on lui donne le nom, comme dans nos habitudes, dans notre tradition, le nom qu'on donne à un enfant, c'est toujours le nom soit de sa tante, soit de son grand-père, soit de son père lui-même. Mais celui à qui on a donné le nom, il se rend compte que l'enfant, là, c'est un albinos. Souvent, il le refuse. Et on est dans l'embarras de donner un nom à un enfant. Parfois, on peut donner le nom de quelqu'un qui est déjà mort parce que celui-là, il ne prendra pas conscience que c'est un albinos qui porte son nom. Donc, c'est déjà un environnement hostile depuis la famille. Entre les conjoints, il y a des disputes, on se rejette la responsabilité. Et pour la plupart, l'homme pense que c'est la femme qui lui a amené la race de l'albinos dans sa famille. Discussions, conflits, le divorce peut s'en suivre. Qui décide de continuer leur vie, parfois ils se décident de faire passer l'albinos parce qu'ils pensent que c'est une malédiction qui est arrivée dans leur famille. Et parfois avec des formules incantatoires, on tue l'albinos, on le jette dans une rivière avec des mots pour dire « pars pour toujours, ne reviens plus dans notre famille ». Mais ceux qui ne sont pas tués vivent dans cet environnement-là hostile où parfois on ne l'envoie pas à l'école, ou lui-même se rendant compte que le milieu n'est pas très favorable à sa présence, même s'il va à l'école. Vous les voyez isolés, ils jouent pas avec les autres enfants, ainsi de suite. Donc, on considère que l'albinos est une malédiction. Et on le considère comme une personne magico-mystique. Et alors, on piétine ses droits.
Oui.
Et beaucoup n'ont pas étudié, beaucoup ne sont pas soignés parce que vous savez qu'ils ont des problèmes de la peau, ils ont des problèmes de vision. Ils ne sont pas soignés. Ce qui fait qu'à un certain âge, ils meurent. Et même dans la société, on dit on n'a jamais vu un vieux homme albinos.
Alors, Isidore Bamana, Isidore Bamana, le fait de se regrouper, qu'est-ce que cela pourra apporter par rapport à toutes ces idées, ces préjugés que les gens ont par rapport aux albinos?
Oui, vous avez entendu Isabelle Kaïba dire que même elle, albinos, n'avait pas le courage de rencontrer un autre albinos sur la route. Mais aujourd'hui, qu'ils se regroupent, qu'on voit leur groupe, un nombre de 20, de 30 ensemble, ça frappe la communauté. Et les gens se posent des questions. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? C'est déjà un début d'intérêt. Je me rappelle que quand nous avons eu la première formation, après la formation, j'ai amené tous les albinos qui étaient dans la formation dans un bistrot. Ils ont pris un verre de bière, ils ont dansé. Et les gens qui étaient là présents, ils ont dit, ah, ce sont aussi des personnes comme nous. Ils peuvent prendre un verre de bière, ils peuvent danser. Donc c'est une façon pour eux de dire à la communauté, écoutez, nous sommes là, nous existons, et nous avons droit à la vie comme vous. Donc je crois que c'est une bonne chose qu'ils se mettent dans une association pour peut-être mener des activités et aller de l'avant.
Voilà, donc on sent qu'il y aura un grand travail de sensibilisation de la population pour faire changer les idées, les mentalités par rapport aux personnes albinos.
Oui, absolument. C'est une des grandes activités que cette association doit déployer sur terrain. Déjà, pendant l'exécution des activités du projet, nous avions mené des activités dans des structures socio-culturelles, dans des églises particulièrement. Partout, nous avions envoyé un couple mixte, c'est-à-dire un noir et un blanc. Parce qu'ici, nous les appelons Mutokwaku et tout, c'est-à-dire les blancs de chez nous, un noir et un blanc. Ils ont parlé à la
communauté. Et certains les appellent les Chitokatoka.
Oui, avant, on les appelait Chitokatoka et nous avons étudié avec nos formateurs, en leur présence, bien sûr. Nous avons trouvé que ce nom-là était péjoratif. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous les appelons Mutokwaku, c'est-à-dire les blancs de chez nous. Donc, pendant la sensibilisation, il y a des gens qui ont pleuré, qui ont dit, même à la fin de la prière, qui ont dit, écoutez, mes chers amis, demandons pardon à Dieu, parce que nous n'avions pas considéré une personne humaine créée à l'image de Dieu comme personne, nous l'avions considéré comme un fantôme, comme un objet. Quoi.
Oui.
Donc, cette sensibilisation va certainement continuer parce qu'il faut atteindre le plus grand nombre de couches possibles. Je sais qu'à un certain moment aussi, nous avions changé de tactique. On a pu faire des visites à domicile. Là où il y a une albinos, on entre dans la famille pour parler avec les gens. Et là, on a ramassé beaucoup de choses. Dans un quartier, un parent avait tué son enfant, albinos, parce qu'on lui avait réservé la tâche d'aller chercher les herbes pour nourrir cobayes, lapins. C'est tout ce qu'il devait faire, lui. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il s'est lavé? Est-ce qu'il est malade? Les parents ne se préoccupaient pas. Un jour, le père revient et il trouve que l'enfant n'a pas exécuté la tâche qui lui était confiée. Il l'a frappé à mort avec sa ceinture et il y a eu du sang sur sa tête qui a jailli. L'enfant crie « Oh papa, tu m'as tué !» Et le père de lui dire « Tu peux mourir, tu ne seras rien ici. Il y a une malédiction pour ma famille. » On l'a laissé avec sa blessure, il y a eu infection, il y a eu septicémie et par après l'enfant est mort.
C'est vraiment une histoire très triste. Je vois même Tati en train d'essuyer des larmes de l'autre côté. Très triste. Bon, on n'a pas assez de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, donc on aura l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody. Meilleurs vœux aux auditeurs de la radio.